Money Time.
Money Time, votre émission sportive tous les lundis de 19h à 20h sur Prune 92 FM et sur prune.net.
Money Time.
Bonsoir à toutes, bonsoir à tous, bienvenue sur Money Time, l'émission sportive de Prune sur le 92 FM et sur le www.prune.net, partout sur la planète. Alors ce soir, Money Time, saison 5, épisode 31, avec autour de la table nos chroniqueurs. Et on commence avec toi mon Charles, comment tu vas bien ?
Salut mon Matt, salut à tous, salut à toutes, ça va très bien et ravi de vous retrouver en ce lundi, et puis je vous souhaite à tous une bonne émission.
On l'espère, à côté de toi c'est Jérém, salut mon pote.
Salut, salut et bonsoir, bonsoir à tous et à toutes et passez une bonne émission et une bonne semaine.
Et puis enfin, pour conclure les présentations, c'est Jean-Marc. Comment tu vas bien Jean-Marc ?
Salut, ça va très bien et je souhaite un bonsoir à tous les auditeurs et toutes les auditrices.
Alors au programme ce soir, on va débriefer de toute l'actualité. On va commencer avec le rugby dans notre rubrique Multizone.
Money Time. Multizone, tout le reste de l'actualité sportive détaillé par la team. Multizone. Money Time. Money Time, votre émission sportive tous les lundis de 19h à 20h sur Prune 92 FM et sur prune.net.
Et donc on va commencer par parler de rugby, on va parler de Coupe d'Europe et on démarre, Jean-Marc, avec la Champions Cup. Toulouse a affronté l'épouvantail irlandais, la province du Leinster à l'Aviva Stadium. Est-ce que la marche était trop haute pour nos Toulousains ?
Je pense que oui. Il a manqué quelque chose, alors le score, Charles va
47.
Nous donner. Je crois qu'ils n'ont jamais existé du match. Hein.
Ça a été très compliqué.
Dans les 5 premières minutes, avec l'essai en contre d'Antoine Dupont, mais c'était un leurre, hein. Les Irlandais étaient trop forts.
Oui, ils ont réussi à tenir jusque les 25 premières minutes, où finalement c'était encore serré à ce moment-là. Mais après, la vague irlandaise est passée par là, et sous l'impulsion forcément de Johnny Sexton, qui était encore en grande forme. Mais voilà, les Leinster a été vraiment au-dessus face à des Toulousains qui malheureusement se sont fait avoir sur deux en avant sur les deux premiers essais.
Exact.
Donc c'était compliqué pour les Toulousains de conserver leur titre, hein, parce qu'il faut se rappeler qu'ils sont quand même champions d'Europe en titre. Bon voilà, ça reste une demi-finale, faudra revenir l'année prochaine encore plus fort. On connaît les arrivées en plus des Toulousains l'année prochaine, avec notamment des Pierre-Louis Barazzi, des Malvin Jaminet ou encore Ange Capuzzo, le jeune italien là, qui avait marqué le fameux essai de l'Italie pour donner la victoire dans la dernière journée face au Pays de Galles sur le dernier tournoi de destination. Donc voilà, il va y avoir des grosses arrivées l'année prochaine pour Toulouse, et puis ça sera l'occasion de revenir. Mais bon, ça reste une demi-finale. On voit que les Toulousains sont encore parmi les meilleurs en Europe.
Ouais, et puis 13 internationaux irlandais hein, dans le squad du Leinster. Donc c'était un Toulouse-Irlande, et on a vu la différence, hein, notamment dans l'impact.
Oui, totalement. Dans le jeu, on les a vus.
Deux essais pour l'ailier Lowe, meilleur marqueur hein, de cette Champions Cup. Leinster qui retrouvera La Rochelle. La Rochelle qui a fait le job. Hein, alors, non pas à...
C'était à Lens.
C'était à Lens, c'était
à
Bollard.
C'était
Bollard.
Pas dans l'arène...
92 Arena, ouais, je ne sais plus comment elle s'appelle. Et à Lens, on a vu un pauvre match, par contre, hier après-midi. Hein.
Ça n'a pas été un grand match, c'est sûr, entre deux équipes françaises.
Énormément de pénalités concédées par les races humaines. Hein, 17, avec ça, on ne peut pas remporter une rencontre de rugby.
Et notamment autour de la 50e minute de jeu, quand il y a eu les fameux deux cartons jaunes pour Camicha, suivi de Gomessa, qui entraîne du coup l'essai de pénalité pour La Rochelle, qui à ce moment-là, on a bien compris que là, La Rochelle, c'était le tournant du match, prenait l'ascendant. Voilà, ils ont été au-dessus, à ce moment-là, ils étaient à 15-13. Derrière, le Racing ne pourra jamais revenir, forcément à 13 contre 15, c'est compliqué. Puis derrière, même La Rochelle marquera un essai en fin de match. Mais La Rochelle a été un petit peu au-dessus, mais c'est sûr que c'est pas le match de la Coupe d'Europe qu'on retiendra cette année.
Non, et Jean-Marc, est-ce qu'on peut espérer espérer quelque chose en finale pour La Rochelle face à un adversaire comme le Leinster ?
Alors je souhaiterais vraiment pour les supporters de La Rochelle, hein, puisque ce club n'a jamais gagné aucune compétition.
Ils étaient en finale l'année dernière.
Ils étaient en finale des deux trophées la saison dernière. En plus, à Marseille, je pense que les Toulonnais vont supporter aussi les Rochelais, je le vois comme ça. Entre collègues maritimes, je pense qu'ils vont serrer les coudes. Mais franchement, le Leinster me paraît trop fort cette saison. Et mon cœur dit La Rochelle et la raison me dit le Leinster.
Ouais, c'est vrai qu'on n'est pas très optimiste, mais la bonne nouvelle, c'est que sur 4 finalistes, 3 sont français, puisqu'on parle de l'autre compétition. Et l'autre compétition, c'est le challenge. Ça avait très bien commencé pour les Gones, le Loup, qui s'est imposé face au Wasp vendredi soir. Première équipe française qualifiée pour une finale ce week-end.
Exactement, les abeilles n'ont pas tenu. Le Loup a réussi à faire le travail.
Il a mangé les abeilles.
Piqué au vif. Voilà, mais c'était, voilà, on a eu un très bon match hein, des Lyonnais avec notamment encore un très très bon Léo Berdeux, le jeune Loup. Voilà, ils ont réussi à renverser hein, parce qu'ils étaient quand même au début menés. Puis finalement, ils ont réussi à prendre l'avantage en seconde période, notamment par un essai de Charcosset transformé par l'Auberdé puis une nouvelle pénalité. L'essai en fin de match de Gopert, le joueur des Waps, n'aura pas suffi. Lyon s'impose et donc se qualifie pour une finale. C'est la première finale pour le Loup en Coupe d'Europe en général. Donc ça fait c'est bien d'avoir des Français. On sait qu'ils rayonnent souvent au rugby et là on montre finalement le niveau du rugby français qui est vraiment sans doute le meilleur en Europe.
Et l'adversaire des Toulonnais s'appelle le RCT, les Rouges et Noirs qui ont fait le job à Mayol samedi soir face aux Saris, les Saracens, hein, promus en championnat cette année, hein, mais favoris pour le titre. Grosse équipe des Saris emmenée par son ouvreur Owen Farrell. Et les Saris ont bien cru tenir la victoire, mais non.
Non, voilà, on a encore enfin un très bon gamin Villière, une très
deux superbes essais sur les ailes.
Exactement. Donc
du bon Charles Olivon en troisième ligne également.
On a eu vraiment le droit, encore un très match très solide des Toulonnais, surtout défensivement. Ils ont réussi à faire le métier face aux Anglais, qui n'ont jamais su finalement trouver la faille réellement en attaque, surtout en seconde période. Ils n'ont marqué qu'une pénalité finalement par Owen Farrell, donc ça montre vraiment la puissance des Toulonnais. Puis forcément, c'est Toulon qui revient très bien en seconde période, en seconde partie de saison. Eux qui étaient vraiment au bord quasiment des relégables en première partie de saison.
Au fond de la rade, hein, peux le dire.
Complètement. Ils allaient pratiquement couler, mais finalement ils ont réussi à revenir grâce à notamment au nouvel entraîneur Franck Azema qui fait du très bon travail à Toulon. Et du coup, finale pour eux, ça sera face au Loup. Ça
à Marseille.
À Marseille aussi. Donc qui aura l'avantage ? Bonne question.
Ça sera le 27 juin. Et du coup, je me posais la question parce que c'est un match particulier pour un certain Pierre Mignoni, entraîneur du Loup, qui sera co-entraîneur de Toulon la saison prochaine. Il rentre à la maison. Et ça va être vraiment un match incertain.
Grande amitié entre ces deux clubs. Oui, hein. On peut même dire que c'est le réservoir de... Longtemps, Lyon a été le réservoir de Toulon. Hein.
Entre les deux équipes qui jouent en rouge et noir.
Exactement. Donc, voilà, les week-ends des Coupes d'Europe, eh ben, c'est dans 2 semaines. On va suivre ça à partir du 29. Hein. 29 et 30 mai, si je ne dis pas de bêtises.
Ça doit être, je sais plus. J'ai plus la.
Enfin, on vérifiera sur l'agenda. Allez, on passe à autre chose. On va parler de handball, Jérémy. On parle bien sûr du H et de la Coupe de France.
Et du coup, oui, le H qui devait impérativement s'imposer contre Chartres ce vendredi soir pour enfin espérer gagner un titre et
embellir. Ils en ont gagné un déjà.
C'est un deuxième titre, mais embellir la phase d'adon qui était gâchée par la défaite en Coupe d'Europe. Et c'est chose faite car le H s'est imposé 33-30 contre Chartres et se qualifie donc pour la finale contre Paris, qui Paris a gagné contre Toulouse.
Ouais, bonne nouvelle pour le peuple violet. Encore un titre à aller chercher en cette fin d'année. Un titre, et puis bien sûr, bon, ça jouait pas en championnat. Là, le championnat reprend vendredi avec la réception de Cesson. Il faut continuer à être solide, hein. Encore beaucoup de matchs à jouer.
Hein. C'est pas loin.
Il reste 6 matchs dans cette fin de saison.
Ça va être dur jusqu'au bout.
Il faut rester deuxième. Hein. Je vous rappelle, au cas où vous ne le sauriez pas, c'est que si Nantes n'est pas deuxième, Aix a très peu de chances d'avoir la wild card pour jouer la Ligue des Champions la saison prochaine. Donc la France n'aurait plus qu'un club, ça peut mettre en danger cette deuxième place française. Donc Nantes doit faire le job pour tout le monde en fait.
Ouais, puisqu'on sait hein, que c'est les dossiers qui doivent être validés par le HF et pas les places en championnat. Une seule place pour la Ligue des Champions, c'est pour le premier de la Molly Leakey Star League. Coupe d'Europe maintenant, en Ligue des Champions, le PSG eh bien, partage les points avec Kiel, 30 partout.
Et devra l'emporter à Kiel le match retour, ce qui sera loin d'être évident.
Ouais, gros match en perspective pour les Parisiens. Vejprem qui fait la bonne opération en allant...
En gagnant à domicile face à Aalborg.
36-29.
Et la grosse déception, c'est la défaite à domicile de Montpellier de 3 buts, 31-28.
Ça qu'il se
passe aux Polonais.
Oui. Ouais, à la maison, à Bougnol, ça va être difficile d'aller gagner là-bas.
Oui, ça va, avec 3 buts de retard, ça commence à faire beaucoup, surtout face à qu'il se. Donc, faudra surtout, maintenant que ça va être à l'extérieur, le match retour, falloir faire quelque
chose. Grosse ambiance en plus en Pologne, ouais, on le sait. Hein,
moi,
ça
je mets une pièce
compliqué
sur le club de Nicolas Tourna.
Exactement, l'ancien Nantais.
Et Barça-Flensburg-Barça, avantage Barça. Ouais.
Pareil, 3-4 buts d'avance eux pour les Barcelonais qui iront à domicile au match retour. Donc là, avantage Barcelone. Le seul gros, pour l'instant, sans doute, indécision. On ne sait pas trop qui pourrait se qualifier. Ça sera entre PSG et Kiel, où là, il y a eu match, comme vous le dites, il y a eu match nul. Donc sur le reste, la logique est plutôt respectée sur les
je
autres matchs.
Je vois le Barça favori à sa succès.
Oui.
Chez les filles, pas de miracle. Brest s'incline à Győr et dit au revoir à la Ligue des Champions.
Oui, tout à fait. Du coup, bah, c'est dommage pour elle. Alors, juste, je vais retrouver mon truc.
Hop. Hop, là, c'était. Ils ont perdu.
Ils avaient fait match nul.
Oui, match nul à Győr. 21 partout. Et la défaite, très très grosse défaite, hein, 35-23 à Győr. Donc pour les Brestoises, éliminées de la compétition en quart de finale. Pas comme effectivement elles, les Messines, se sont qualifiées du coup.
Ça va, son coéquipier d'Estelle Zeminko et de Stine Hovdal. Hein, c'est l'ogre, hein, Győr, dans cette compétition.
Et qui recevront le 2 juin. Christiansen à domicile contre eux.
Et ils ont juste la meilleure triplette de gardienne du monde, puisque outre Laura Gloser et Amandine Leno, c'est quand même Silje Solberg, la troisième. Juste, voilà, quasiment les meilleures.
Il y a des ressources, comme on dit.
Ouais, tu l'as dit, Metz, ça sera face à Kristiansand, l'équipe championne d'Europe, tout simplement, qui avait battu Brest en finale l'année dernière, si vous vous souvenez bien.
Oui.
Donc attention, les joueurs sont prévenus.
Je dis que c'est jouable pour Metz.
C'est jouable.
Le demi-finale, du coup, ce sera entre Győr et Eichberg.
Allez, on développe la suite du programme. On va parler de vélo, on va parler de Giro. Ça y est, ça a démarré il y a 8 jours. Et on va commencer par donner le leader de la course, car c'est une surprise.
Et pour l'instant, effectivement, le leader de la course, c'est un cycliste, un coureur un peu inattendu. C'est l'Espagnol Juan Pedro López de la Trek Segafredo, le jeune, hein, il est plutôt jeune, hein, il est né 97, donc 25 ans pour lui. C'est la première fois hein, qu'on le voit vraiment dans un grand tour, donc c'est très intéressant. Il a su notamment profiter d'une étape où il est parti en échappée pour pouvoir se repositionner au classement général. Il avait bu à ce moment-là, du coup, après prendre le maillot rose suite aux défaillances de l'autre cycliste, je n'ai plus le nom, qui avait lui pris le maillot rose, mais voilà. Donc lui, pour l'instant, est en tête, toujours devant les grands, tous les favoris, que sont João Almeida, Romain Bardet, Richard Carapaz, Jingle, ou encore pour le deuxième français, Guillaume Martin et Mikel Landa. Donc voilà, les favoris sont présents, sauf deux ou trois malheureusement.
Moi, ce que j'ai bien aimé, c'est sa résistance dans le Blockhaus ce dimanche.
Oui, bien sûr.
Où il avait de grandes chances de perdre le maillot au profit d'Almeida ou de Bardet. Et il a résisté pour rester devant.
Voilà, il finit à quand même 1 minute 46 sur par rapport aux favoris, donc avec la victoire de Jingle au sommet du Blockhaus. Voilà, il avait quand même de l'avance. Là, avec 10 secondes, 12 secondes d'avance sur João Almeida, Romain Bardet 14 secondes. Ça risque d'être compliqué pour la suite, mais au moins il a porté le maillot. On ne sait jamais ce qui peut se passer, bien oui, sûr, mais c'est vrai que dans l'idée, ça reste quand même, ça va être compliqué pour lui de le conserver.
Bon, alors, allez, fait marquant sur ce début, sur cette première semaine, Arnaud Démare, 2 victoires qui portent son total à 7. Record pour un Français, Jean-Marc.
Exactement, et du coup, il passe devant Hino et Anctil, qu'on avait 6 chacun. Donc, une nouvelle fois, il est porteur du maillot cyclamen, Arnaud Démare. Et on va espérer qu'il continue à en gagner. Hein. Il peut encore en gagner peut-être 3.
Oui, il y a encore, voilà, il y a encore 3, 4 peut-être. Mais voilà, surtout 3 grosses possibilités pour lui d'aller remporter des victoires d'étape. Il en avait déjà remporté 4 victoires l'année dernière sur le Giro. Il avait aussi déjà remporté le maillot de Chiclamen. Donc voilà, c'est pour l'instant l'histoire d'amour entre Arnaud Démare et le Giro continue.
Ouais, et puis le train de la FDJ, comme l'année dernière, oui. Impérial, il lui amène les sprints sur un plateau.
Là, pour l'instant, voilà,
c'est presque meilleur. Et surtout, oui, alors, autant la première étape, je ne sais plus qui il devance, mais la deuxième
c'est
étape.
C'est Cavendish, notamment.
C'est Cavendish, et la deuxième étape, c'est Caleb Ewan.
C'est Caleb Ewan qui est juste. Il se bat vraiment avec Caleb Ewan, c'est jusqu'à la photo finish, et on a attendu vraiment les DF. Vraiment,
c'est plaisant. Ça lui arrivait pas souvent, ça lui arrivait jamais de battre Caleb Ewan. Là,
c'est la chance.
Il s'impose devant deux grands, donc il s'affirme aussi. Quoi.
Et aussi Fernando Gaviria, aussi, qui était là aussi. Donc ça montre vraiment là. Bah, je pense que cette première victoire à la photo finish lui a donné beaucoup de confiance. Pour dire voilà, j'ai débloqué mon compteur sur ce Giro, et forcément pour la deuxième, bah là il est grand sur sa deuxième victoire, c'est grand favori avec la victoire juste avant. Donc il enchaîne 2 victoires d'affilée sur les 2 étapes qu'il pouvait gagner, hormis celle finalement de Cavendish. Donc franchement, pour l'instant, que de positif pour Arnaud Démare, et on attend de voir les suites
oui,
du Giro avec impatience.
Et surtout, c'était ses 2 premières victoires de la saison.
Aussi, en plus. Donc ça va lui donner beaucoup de confiance pour la suite de la saison.
Romain Bardet en embuscade, peut-être pour un podium.
Bah, pour l'instant, 3e. Voilà, il est derrière, donc, comme Juan Pedro Lopez et João Almeida. Donc à savoir que c'est un Giro, finalement, il y a très peu de contre-la-montre. Pour l'instant, effectué le premier contre-la-montre de 9 km où c'était Simon Yates qui s'était imposé. Simon Yates qui lui s'est fait distancer dans l'étape du blocos à plus de 11 minutes, donc pour lui c'est fini. Mais voilà, donc on a vraiment un contre-la-montre où il doit rester une 20aine de kilomètres de contre-la-montre. C'est peu hein, finalement par rapport à d'autres éditions. On a vu beaucoup plus de contre-la-montre ou même sur le Tour de France par exemple. Là, c'est vraiment l'occasion à saisir pour faire un podium pour Romain Bardet sur le Giro, voire même pourquoi pas rêver de victoire. On sait qu'il est très en forme, il a quand même notamment gagné le Tour des Alpes.
Pour l'instant, il n'a que 14 secondes de
voilà,
retard.
C'est 14 et secondes d'écart face à Juan Pedro Lopez qui est censé être largement en dessous. Donc c'est vraiment face à Almeida qui se bat. Et Richard Carapaz notamment qui est juste derrière.
Et moi j'ai une question, combien il reste d'étapes de montagne?
Bon, il doit en rester 4-5 max.
D'accord, donc.
Ça va être. Non, mais voilà, c'est qu'il reste. Voilà, on a passé la première semaine, il reste 2 semaines, donc il va rester. Notamment bah, du coup 12 étapes parce qu'il y en a 21, il y en a déjà 9, donc 12 étapes à passer, 2 semaines. Voilà, il va rester surtout 4-5 grosses étapes de montagne à voir ce que ça va donner, mais en tout cas Romain Bardet fait partie des favoris et c'est sûr que pour lui l'objectif à l'heure actuelle ça va être le podium. La victoire, on verra selon les situations de course, comment ça va évoluer, s'il arrive à récupérer du temps, si voilà, il maintient un formidable niveau ou que forcément Carapaz et Almeida sont un petit peu en dessous. À voir après sur les autres, Jay Hindley aussi hein, quand même, qui a gagné le blocos, mais voilà, donc on sait que quand même Romain Bardet actuel fait partie des favoris, un top 5 serait très bon, le podium c'est aujourd'hui l'objectif, et la victoire alors là bon, on ne s'emballe pas, on n'en parle pas, mais ça pourrait être en tout cas le cas cette année.
Moi je dis qu'il n'y a pas d'épouvantail hein, dans cette course.
Non c'est hein, ça, il n'y a pas de gros favoris qui se dégagent comme on peut le voir sur le Tour de France avec notamment des Tadej Pogacar ou des Primoz Roglic. Là on sent vraiment que bah, c'est beaucoup plus serré, beaucoup plus homogène comme sur les dernières années. On a vu quand même des coureurs avec des Tao Geoghegan gagner, des Richard Carapaz, il n'y a pas eu forcément un grand favori qui gagne à chaque fois et tout. C'est beaucoup plus une course décousue sur les dernières éditions, donc on espère voir forcément un Français remporter enfin un grand tour. Ça sera peut-être pas lui, mais en tout cas, voilà, c'est sûr jamais. Que...
Sinon, on mettra une petite pièce sur Gino Martin. Un petit mot du Trobroléon boueux cette année et d'une victoire française, Hugo Hofstetter.
Hugo Hofstetter, bah, sprinter de l'Israël Startup Nation. Enfin, Israël, maintenant.
Anciennement, il est chez Arkea, maintenant.
Maintenant, il est chez Arkea, oui. Il était anciennement chez Israël. Maintenant, il est chez Arkea, aux côtés de Benjamin Thomas, tout ça. Il a le gros recrutement chez l'Arkea, avec notamment Quintana. Arkea qui ne fait pas le Giro pour des raisons pour essayer de passer en World Tour l'année prochaine. Hein. Donc voilà, ils feront notamment le Tour de France avec Quintana en leader. Mais voilà, donc encore une fois, une grosse, pour l'instant, très bonne saison des Arkea.
Et grosse présence sur le Trobroléon, hein, et tout était misé sur une victoire bretonne. L'objectif c'était Laurent Pichon, malheureusement il a crevé à 2-3 km de l'arrivée. Et Arkea arrive premier, troisième au milieu. C'était un coureur de BNB Hotel.
Il y avait aussi le Grand Prix, le GP du Morbihan, avec la victoire de Julien Simon, le coureur du coup français qui remporte cette victoire. Il s'impose du coup notamment devant notamment Alexander Christophe et Jack Stewart, le coureur de la groupe MFDJ. Donc une belle victoire pour Julien Simon de la Total Energy.
J'avais une cliente néo-zélandaise qui a fait le GP du Morbihan vendredi soir, mais j'ai pas son nom, désolé.
Allez, on enchaîne, on parle de tennis. Dans 6 jours, c'est le début de Roland-Garros. Cette semaine, c'est les qualifs. Mais nous, on va parler de ce qui s'est passé à Rome, le Master 1000 de préparation. Le dernier Master 1000 en préparation de Roland-Garros et la victoire de Novak Djokovic.
Novak Djokovic qui faisait son retour, notamment sur le gros Masters 1000 il était déjà là à Madrid, là il revient encore une fois en préparation de Roland Garros avec un Nadal malheureusement qui a chuté très rapidement face à Denis Shapovalov en 3-7
en quart. Inquiétant pour Raph à une semaine des...
Oui, je pense.
C'est inquiétant dans le sens où effectivement là on le voit que il y a eu sa blessure post Open d'Australie. Ça commence à être compliqué. Alors effectivement, il perd contre Alcaraz, qui est un gros favori à Madrid. C'était son tournoi de rentrée. Là, quand même, c'est le Masters 1000 de Rome. C'est quand même, il a eu le temps un petit peu plus de temps. Là, il revient bien. Mais malheureusement, effectivement, ça commence à faire beaucoup. Roland Garros, ça commence dans une semaine.
Là, je pense.
Ça va être très compliqué pour lui. Il fera partie des favoris parce que ça reste Rafael Nadal, ça reste le meilleur joueur de tous les temps sur terre battue.
Et sur un saut d'orgueil, et comme il a déjà fait des fois ou des tournois où il a fini blessé, il a quand même été allé jusqu'au bout grâce à sa force mentale.
Il peut pas se cacher, il arrivera pas dans l'ombre, il arrivera quand même en grand favori.
Pour moi,
c'est la casquette qu'il va avoir.
Avec notamment Carlos Alcaraz qui a fait l'impasse sur ce tournoi de Rome, donc c'est pour ça qu'on ne l'a pas vu. Mais en tout cas, pour bien préparer Roland Garros notamment, et évidemment Novak Djokovic qui s'est imposé facilement en finale de
6-0-7-6.
Donc ça montre que Djokovic est très 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 fort encore sur terre battue. Aujourd'hui, il y a peu de monde qu'on peut voir, hormis les trois qu'on a cités, au-dessus, Zverev, Tsitsipas, Casper Ruud, tout ça, c'est des très bons joueurs, mais qui malheureusement sont un ton en dessous. On risque peut-être, sans doute, d'avoir une finale Djokovic-Alcaraz, et de voir ça sur un match en 5-7.
Attends, on n'a pas le tableau encore.
On n'a pas le tableau, mais ça risque peut-être de
se faire. Ça peut être une demi.
Ça peut être aussi une demi, un quart, effectivement, ou un quart.
Tu m'as dit qu'il était sixième à l'ATP, Alcaraz. Donc Alcaraz, avant d'arriver en demi, il aura forcément les cadors dans son tableau.
En tout cas, ça risquera sans doute de faire une demi ou une finale. Ça dépendra du tableau, effectivement. Mais dans l'idée, c'est ce qu'on aimerait voir. Avoir Alcaraz ou Djokovic.
Moi, j'aimerais quand même voir un Français en deuxième semaine, déjà pour commencer.
Ça ne sera pas Gaël Monfils.
Il est forfait.
Il est forfait suite à une blessure au pied, au tendon d'ailleurs, si je crois bien, au tendon d'Achille. Donc, c'est malheureusement, ça sera sans Gaël Monfils la meilleure chance française. On espère
Est-ce
voir
que ça fait
d'autres
récupérer
Français.
Récupérer une wildcard.
Ça, c'est à mon avis, non. Mais en tout cas.
C'est Benoît Paire qui fera le show.
Benoît Paire qui fera le show.
Au premier tour, et puis après, ça finit.
Et on ne sait jamais. Joe Lefried, son gars, pour sa fin de carrière, pour son dernier Roland Garros, pourra peut-être faire quelque chose, même s'il s'est fait éliminer facilement face à Alex Molcan sur le premier tour de Lyon, du tournoi ATP 250 de Lyon. Aujourd'hui, mais bon, c'est sûr qu'on peut-être un Rinderknecht, un Benjamin Bonzi pourra faire quelque chose, mais c'est sûr que aller voir un Français en deuxième ou un Hugo Humbert aussi, mais aller voir un Français en deuxième semaine cette année à Roland Garros,
ou une
Française, pourquoi pas. Avec il y a des Françaises qui peuvent faire quelque chose.
Mais Clara Burel,
évidemment, on peut aussi penser Alix Écornet qui fait plutôt une pas mauvaise saison pour l'instant, plutôt bonne saison.
Bon, donc on va penser qu'on va s'ennuyer à Roland, qu'il va pas y avoir.
On va pas s'ennuyer, mais
des surprises, des révélations cette année.
On peut s'ennuyer
côté français,
jamais.
Du coup, en parlant de Rome, mais du coup, on va parler des femmes. Là, c'est sûr qu'il y a une grande favorite qui se dégage. Seule et unique, ça reste Iga Świątek, la polonaise.
Iga Świątek, battue 6-2, 6-2, 11 Jabeur.
En finale de l'ATP, du coup, de Masters.
Jabeur, une joueuse de terre.
Une joueuse de terre, elle a gagné Roland Garros.
C'est vraiment une joueuse de terre.
Aussi.
Et moi, je pensais qu'elle résisterait plus longtemps
face à Świątek. Mais grande forme, c'est incroyable.
Du coup, je suis un peu moins optimiste pour mes prévisions de Roland-Garros. Je voyais bien la Tunisienne faire un beau... Elle fera sûrement un beau parcours, mais...
Elle peut faire finale. Elle peut faire
mais
finale.
Gagner, ça va être beaucoup plus compliqué.
C'est sûr que là, pour gagner, ça va être beaucoup plus compliqué au vu de la, de la force de Iga Świątek. Mais on ne sait jamais ce qu'il peut se passer. Mais en tout cas, voilà, Świątek est quand même sur une série de victoires, mais impressionnante. Hein. On ne sait pas jusqu'où elle s'arrêtera. Elle est notamment sur sa 28e victoire de rang. 28 en tennis, c'est énorme. On ne se rend pas compte. C'est pour dire le niveau actuel de Iga Świątek.
Ça fait 5 tournois de suite. Quoi.
C'est ça, à peu près 5 tournois de suite. Elle a remporté encore de nombreux tournois cette année. Surtout sur terre battue, où c'est son domaine de prédilection. Elle a gagné Roland-Garros en 2020. Donc on va voir ce qui va se passer. On sait que c'est sur un tournoi tout peut se passer, surtout à Roland, mais c'est sûr qu'elle partira comme grande favorite cette année.
Eh ben on suivra ça. Allez, on part sur les sports méca, en tous les cas sur la MotoGP. On était au Mans hier pour le Grand Prix de France, on attendait nos Frenchies. Et non, c'est Enan Bastianini qui lève les bras sur le podium.
Exactement, l'Italien, troisième victoire cette saison. Le sophomore, hein, lui qui ne fait que sa deuxième saison cette année en MotoGP. Hein, déjà trois victoires cette saison après le Qatar et le Grand Prix des Amériques. Il remporte ce Grand Prix devant notamment Jack Miller sur sa Ducati et Aleix Espargaró. Malheureusement pour le nos Français, Fabio Quartararo ne finit qu'une quatrième place, hein, mais ça reste encore des gros points. Il aurait pu courir 24 heures, il n'aurait jamais dépassé.
Il y a quand même un gros écart, parce que tu vois Fabio qui finit quatrième, il est quand même seulement 4 secondes du premier, et Zarco qui est cinquième, il finit quand même à 11 secondes.
Oui, voilà, il y avait vraiment 4 coureurs qui se détachaient. Alors à un moment 5, parce qu'il y avait Bagnaia, mais qui a chuté notamment à 5-6 tours.
Hein, beaucoup de chutes au Mans. Hein. On a vu Martin partir au tapis, les deux Suzuki, et puis Bagnaia, leader de la
les
course.
Les 4e aussi, hein. hormis Miguel Oliveira, ils sont tous... Non, hormis
Et il y a eu 7 abandons. 7 abandons.
Voilà, on est vraiment sur un circuit difficile, très technique, où c'est compliqué vraiment de dépasser. On sait que c'est un gros circuit où il faut vraiment être à l'affût, mais tout le temps, il faut vraiment tout le temps être concentré. Il n'y a pas un moment de relâchement. Et on a vu à ce moment-là, à ce niveau-là, un Bastianini encore très très malin qui a fait plonger Bagnaia dans l'accordement.
Il se faut votre numéro accordement, c'est...
Incroyable.
Nul.
Incroyable. Ah oui, non, mais il était en tête, et en 4-5 tours, pendant ce tour-là,
Du deuxième secteur... Il se fait passer une première fois, et puis du coup, après, il craque, ouais, il supporte pas la pression.
Il se fait passer au deuxième ou troisième virage dans la chicane Dunlop. Puis il arrive à le repasser dans la courbe Dunlop. Puis après, il se fait Bastianini arrivera à le repasser dans la ligne droite. Et puis après, dans l'accordement il fait une grosse erreur et puis il perd l'avant, il part en lice. Du coup, Bastianini qui remporte facilement ce Grand Prix.
Troisième victoire pour lui cette saison.
C'est ça. On est sur un pilote italien très très fort qui risque peut-être de prendre la place de Jack Miller sans doute l'année prochaine sur Ducati officiel, et il se bat notamment avec Jorge Martin pour cette place là mais en tout cas pour l'instant Martin était favori, mais de ce début de saison Bastianini pourrait la prendre.
Jack Miller, lui, qui finit deuxième malgré un pneu complètement usé, et belle perf quand même.
Lui parti en soft alors que les autres étaient plutôt partis en pneu médium à l'avant.
Belle perf aussi pour Aleix Espargaró, hein, encore sur le podium avec son Aprilia.
Rien à dire, aujourd'hui il est deuxième au classement du MotoGP derrière Fabio Quartararo à seulement 4 points. Il a sa victoire au Grand Prix d'Argentine, il est en train de performer, une Aprilia impressionnante, une très bonne moto.
C'est de lui qu'il faut se méfier pour Fabio.
Ça sera avec Espargaró et Bastianini, je pense. C'est encore, on n'est qu'à un tiers de la saison, mais c'est sûr que c'est pour l'instant les trois qui se détachent, c'est Fabio Quartararo, Espargaró et Bastianini.
Quartararo qui aura tout tenté et puis qui n'aura rien pu faire pour reprendre cette troisième place.
Il manque de points de vitesse, ce qui fait qu'il peut être assez proche pour pouvoir doubler Espargaró à ce moment-là. Comme je l'ai dit, il aurait pu courir 24 heures derrière Espargaró qu'il ne l'aurait pas doublé. Il était bloqué au bout d'un moment. T'as beau être le meilleur pilote du monde, tu peux, tant que la moto derrière ne suit pas et n'a pas ce petit n'est pas au niveau et n'a pas ce petit plus, c'est compliqué de doubler.
Mais ouais. Fabio assure les gros points, Jean-Marc.
Mais voilà, il assure toujours les gros points.
Exactement.
On se rappelle demi, hein, il y a deux ans, titré un peu comme ça, victoire en saison et puis des places d'honneur.
Mais il faudra faire comme attention parce que l'écart entre les points se refaire quand même déjà, parce que Fabio qui est à 102 points est déjà suivi par Aleix à 98 points. Donc l'écart.
Ouais, on l'a dit, Espargaró, il sera dans le coup.
Johann Zarco, parti 11e, arrivé 5e.
À la lutte avec. Marquez hein, qui le double finalement pour oui, s'adjuger la cinquième place.
Marquez avait, on sait que les Honda ne sont pas forcément très compétitifs sur des circuits où la piste est chaude. Là, il faisait quasiment 40 degrés. C'était donc une piste très chaude et les Honda sont moins performantes. On a vu seulement finalement. Marc Marquez arrive à faire un top 10 pour Honda, donc on a bien vu que c'était compliqué malgré le talent qu'a Marc Marquez. Et Yann Zarco a pu en profiter pour faire une belle remontée, finir une belle 5ème place. Zarco lui pour l'instant est 5ème aussi au classement du MotoGP à égalité avec Jack Miller à seulement 62 points, donc il est un peu décroché, mais on sait c'est encore beaucoup de Grands Prix. On va voir ce qui va passer, mais en tout cas Zarco c'est sûr attendra pour sa victoire et on l'attend avec impatience nous.
Ouais, absolument.
Ça sera peut-être dans 2 semaines en Italie.
Dans 2 semaines en Italie, reprise du MotoGP. Un mot de golf sur le PGA Tour, c'était l'AT&T Byron Nelson. La victoire pour l'Américain Lee qui s'impose lors du dernier jour, moins 26. Un point devant Jordan Spieth, moins 25 et 2 devant un duo Matsuyama Munoz. Munoz qui menait... Pendant 3 jours, la compétition, Paul Barjon passe le cut cette semaine, 65e à moins 11. Il est 173e à la FedEx Cup. Allez, un peu de patience et ça va aller pour Paul. Je voulais qu'on parle de boxe. Il y avait un combat qui nous intéressait samedi. C'était la conquête qui continue pour Tony Yoka. Cette fois-ci, il n'était pas à Nantes, mais à l'Accor Arena.
Ça. Exactement, on a eu le droit à un beau combat entre c'était Tony Yoka face
à un Congolais.
Martin Bacolé,
exactement.
Et belle victoire de Bacolé, il n'y a rien à dire.
Deux fois au tapis,
Yoka au tapis. Est-ce qu'on a vu les limites de Tony Yoka sur un ring? En tous les cas, dans
c'était
la catégorie
face à un
lourd.
Gros adversaire. Faut noter quand même, Bacolé était quand même 18 victoires, une défaite seulement.
Et au ranking, Bacolé était 12e et Yoka 14e.
Donc voilà, donc c'est un adversaire par lequel il faut passer. Alors oui, c'est une défaite, mais ça n'entrave pas. Au contraire, je pense, ça a monté vers les sommets. Il n'a que 30 ans aujourd'hui. Les grands boxeurs sont plus vieux.
Oui, mais
hein.
C'était son premier vrai test.
C'est un premier gros test, c'est vrai. Mais il l'a dit lui-même, il fallait peut-être changer quelque chose à l'entraînement sans doute, mais c'est sûr que d'un point de vue personnel, ça fait mal, mais on apprend beaucoup des défaites et je pense qu'il va beaucoup apprendre et il va revenir beaucoup plus fort.
Ouais, je n'y crois pour les Français. Pas de cet avis.
Ça y est, tu vas encore le condamner.
Ah ouais, moi je le vois dans Danse avec les Stars l'année prochaine.
Il condamné Alex Bescon, il condamné Paul Barjon. Avec lui, il n'y aura plus de sportif français.
Paul Barjon, t'avais raison.
Non, mais pour défendre la vie de Mats, j'avoue que Tony Yoka n'a pas vraiment eu des adversaires très.
Après, c'est dans l'évolution. Dans sa phase de progression, c'est un petit peu logique.
Mais même, c'était souvent des victoires un petit peu gagnées d'avance.
Oui, c'était face à des adversaires. On lui cherchait des sparring partners.
Voilà.
Oui, mais il en a eu beaucoup pour s'entraîner là où il était à Las Vegas. Oui, c'est ça. Du coup, c'est à voir. Mais il a dit qu'il allait changer des choses et qu'il allait apprendre de cette défaite.
Bon, là, tourne au tournant, prochain match.
Exactement.
Ok, bon, allez, on va parler des résultats des clubs nantais. Il y en a très peu, mais on y va. C'est Score en Stock.
Money Time. Score en Stock. Résultats, analyse, classement et agenda des clubs nantais. Score en Stock. Money Time. Money Time, votre émission sportive tous les lundis de 19h à 20h sur Prune 92 FM et sur prune.net.
Et je commence par le basket, puisque l'Hermine est sauvée. 3e victoire d'affilée, 85-71.
Super nouvelle!
Face à Saint-Vallier, premier quart 21-10, 19-12 dans le deuxième, 27-22 dans le troisième, un petit relâchement dans le quatrième, 18-27. Et du coup, Nantes finit 13e, en fait 10e ex aequo, mais du coup à la 13e place. 15 victoires, 19 défaites. Finalement, c'est qu'il y a deux défaites de trop pour ne pas accrocher la 8e place synonyme de play-off. Et du coup, c'est Tours et Rouen qui vont descendre. Hein. Saint-Vallier, notre adversaire du soir, qui finit ex aequo avec Tours, s'en sort bien grâce au match entre les deux équipes. Et puis, je voulais surtout dire que c'est le SLUC Nancy qui remonte en proie. Grande équipe, et puis du coup, ils vont récupérer la salle Jean Veil qu'ils avaient prêtée aux handballeurs, puisque les handballeurs devraient redescendre en Pro League. un autre mot d'une autre équipe qui va monter, elle, et ça nous fait bien plaisir, c'est le Stade Nantais qui remonte, ça y est, en Fédéral 1, puisque pour ses 16e de finale, retour face à Tulle. Victoire 59-10 avec ses 8 essais. Des essais de Ogor, Michaud, Malabeuf, Kartvechvili, Réveillère deux fois. Et puis, je crois que c'est tout, je les ai notés. Ménoré, pardon, pour le dernier. Très belle rencontre. Un stade Pascal Laporte rempli, près de 3000 spectateurs. Grosse ambiance. Et du coup, Nantes, en gagnant 16e de finale, est assuré de monter en Fédéral 1. Mais ça ne s'arrête pas là, puisqu'il y aura les 8e de finale. Premier match à l'extérieur, ça sera Bergerac. Et le 5 juin, si vous ne faites rien, allez tous au stade Pascal Laporte, s'il reste de la place. Ça sera encore une belle après-midi de fête. Je vous avais ramené du son de Mirko Bergamasco. Malheureusement, il y a tellement d'ambiance derrière qu'on n'entend rien. Donc, j'essaierai de faire mieux le 5 juin.
On compte sur toi. Les filles du FC Nantes ne jouaient pas, le dénouement c'est ce week-end.
Exactement,
puisque là c'était la Coupe de France, finale de la Coupe de France à Dijon. Les adversaires qui avaient éliminé le FC Nantes, Iser, n'ont pas existé face au PSG. Défaite 8-0 avec un triplé de Marie-Antoinette Katoto, la meilleure joueuse du championnat selon l'UNFP. Du coup, le dernier match, ça sera à Lens, c'est dimanche prochain. Et je vous rappelle chose, il faut que Le Havre fasse match nul au mieux et que Nantes l'emporte à Lens pour une montée en Division 1. Donc ça sera très compliqué, mais on va quand même croiser les doigts.
On croise les doigts,
on peut rien faire de tout ce qu'il faut faire.
On rappelle que
tout est possible.
Le Havre affronte Vendenheim, qui n'est pas forcément une des meilleures équipes de ce championnat. Donc
exactement, puisque Vendenheim est condamné, mais on ne sait jamais.
On a mal entendu. Allez savoir, libérer Vendenheim, porte Nantes en Ligue 1. Bon, on a terminé avec les résultats des scores nantais. Il reste 20 minutes, on va parler de football. C'est le Prune Football Club.
Le Prune Football Club, FC Nantes, Ligue 1, Champions League, foot étranger et bien plus encore. Le Prune Football Club. Money Time, votre émission sportive tous les lundis de 19h à 20h sur Prune 92 FM et sur prune.net.
Et c'est le sprint final. On arrive au bout de la course. Plus que deux et... Une était passée ce week-end, on parle de ça avec toi Jérém, puisque Rennes a toujours son destin en main pour aller chercher la Champions.
Oui tout à fait, et malgré la défaite en milieu de semaine contre Nantes, Rennes aura pu se mettre une grosse balle dans le pied pour ce sprint final. Et grâce à ce gros match en jeu, le dernier match à domicile contre Marseille, Rennes a plutôt bien fait le job en gagnant 2-0.
Bourigeaud qui ouvre le score d'une belle frappe croisée.
C'est ça, et d'ailleurs c'est le Rovoyer qui remet ça pareil. Et grâce encore à la deuxième passe décisive de Martin Tarrier.
Ah, bien placé au point de pénalty, aux 5 mètres.
C'est ça. Et Marseille, qui, de l'adversité, commence à lâcher beaucoup de lest dans ce championnat. Et du coup.
A perdu une place déjà au classement, puisqu'ils sont passés à 3e.
Et du coup, si on référence, si Rennes regagne et que d'ailleurs ça perd. Il perd clairement de place que grâce à la victoire prochaine de Rennes, si c'est perd, grâce au goal average, Rennes passera dans tous les cas.
Ouais, Rennes en position de chasseur qui attend le faux pas de Marseille ou de Monaco. Monaco, on a bien failli avoir droit à ce faux pas à Louis II, mené 2-0 par les Brestois, Jean-Marc.
Exactement, les Brestois qui avaient ouvert le score puis pris l'avantage 2-0. On se dit, oulala, Monaco est en train de retomber dans ses travers. Et puis Ben Yedder a fait le job et Monaco l'emporte
triplé,
3-2.
Hein. Triplé pour l'international tricolore.
Français. 4-2 même.
Oui, 4-2, pardon.
4-2.
Ça. Et dans l'autre côté, le match à la Coupe de l'Europe, Nice s'est sacrifié.
S'est sabordé.
Sabordé plutôt contre Lille. Match perdu 3-1. Et Lens a fait le job contre 3. On a gagné 3-1 là-bas.
Et surtout Strasbourg qui s'impose aussi. Grâce à Thomasson. Grâce à Adrien Thomasson, l'ancien Nantais.
Donc tout reste et ça gros entre la sixième et la enfin entre la cinquième et la deuxième place, tout reste à jouer pour la Coupe
d'Europe. C'est ça. Pour vous expliquer un petit peu, là, actuellement on a Monaco qui est deuxième à 68 points, Marseille à 68 points, Rennes à 65 points.
Seul quatrième.
Strasbourg et Nice sont à 63 points. Donc dans l'idée à l'heure actuelle. Monaco, en fait, ça va se jouer entre Monaco, Marseille et Rennes, finalement, pour savoir qui va être sur les places de deuxième.
C'est ça.
Et troisième, avantage forcément Monaco et Marseille.
Dans ce duel-là, si Rennes fait un mauvais match contre Lille, Rennes peut tout perdre et finir sixième.
Mais il va y avoir surtout des gros matchs sur cette dernière journée. Il y aura notamment ce Marseille-Strasbourg.
Qui a besoin de points pour aller chercher l'Europe, parce que derrière, Lens est là aussi. Lens n'est pas condamné.
C'est ça, Lens n'est pas condamné, mais ils reçoivent à domicile Monaco. Donc ça va être encore très compliqué.
Tout le monde veut des points lors de cette dernière journée.
Et plus Rennes qui va se rendre à Lille.
Rennes qui se rend à Lille, donc ça va pas non plus être forcément très simple. Donc voilà, donc on va avoir finalement des matchs très serrés, des matchs à enjeu face à pas des petites équipes pour aucune des équipes finalement. Donc on va avoir du très très beau spectacle. Nice, eux, se déplacent à Reims. Reims qui est aussi en bonne forme, ils ont gagné à domicile cette semaine.
Et souvent Reims, c'est souvent l'abattoir des grosses équipes.
C'est ça. Donc à voir ce que ça va donner, mais en tout cas ça va donner un dernier multiplex, notamment pour l'Europe. Très très sympa.
Ah oui, exceptionnel, on le rappelle, hein, si Marseille ou Monaco perd et que Rennes l'emporte, grâce à son gros goal à virage, sera en Ligue des Champions.
C'est ça.
Et peut-être même à la deuxième place si les deux perdent. Voilà. Et dans ce cas-là, qualifié directement pour la phase de groupe.
Ça serait beau.
Incroyable.
Et on regardera aussi le bas du classement.
On va regarder le bas du classement. Nantes est concerné.
Personne n'est condamné encore. Hein.
On va envoyer les verts en Ligue 2, les gars.
Personne ça, c'est l'objectif. À une journée de la fin, personne n'est encore en Ligue 2. C'est officiellement.
Officiellement, non. Bon, officiellement, Bordeaux a très peu de chance dans le sens où ils sont quand même à 12 buts au glaverage en moins par rapport à Metz qui, quand même, a 3 points devant.
Mais Metz joue Paris.
99,99%. Metz peut prendre 7-0, effectivement, et Bordeaux peut gagner.
5-0.
Même si Bordeaux va où ? À Brest. Brest, on connaît. Bon, ils sont quand même plutôt. C'est tonnerre de Brest, on connaît.
Bon, on a peu de chance quand même de voir Bordeaux en Ligue 1 l'année prochaine.
Oui. Non, je pense que.
L'affaire est.
Je vais être franc. Brest va gagner. PSG-Metz va y avoir 5-5. Ce sera un match nul parce qu'il faut que Mbappé finisse meilleur buteur et meilleur passeur. Donc il va se débrouiller pour mettre 3 passes et il va marquer 2 buts et battre tous les records. Parce qu'il il battra tous les records du meilleur passeur parisien. Et donc, du coup, après, exactement comme tu l'as dit, il part au Real Madrid après. Ça, on le saura à la fin du mois, une fois la finale de la Ligue des Champions passée. Et dans le même temps, Nantes va battre Saint-Etienne et envoyer dans le même temps Bordeaux et Saint-Etienne.
Deux clubs historiques.
Ça serait magique, ça me ferait beaucoup rire. Et puis bon, on verra, pour
Metz.
Ça me ferait mal au cœur de les voir en Ligue 2 quand même, parce que ça reste des clubs historiques, mais ça me ferait plaisir dans le sens où ça va remettre un petit peu l'église au milieu du village dans ces clubs.
Nantes aussi, club historique, était descendu, à Marseille.
5 ans pour remonter Jean-Marc, ça risque d'être long pour ces deux clubs.
Oui, mais ça sera bien, ils vont reconstruire quelque chose.
Comme aussi autre club historique de Ligue 1 qui est descendu il y a 2 ans. C'est Toulouse qui
remonte champion de France de Ligue 2.
Accompagné d'Ajaccio.
D'Ajaccio.
Et par contre, c'est compliqué pour monter en Ligue 1 parce que Auxerre, 3e, attend son adversaire.
Paris
FC Sochaux pour affronter après en aller-retour le 18e.
Sans doute Metz ou Saint-Etienne. Parce que Lorient, derrière devant, c'est Lorient, Clermont, 3, tout ça.
C'est le marathon pour la montée en D2. Hein.
Mais surtout, ce qu'on
a vu que Toulouse s'était brûlé les ailes l'année dernière.
Face à Nantes, notamment en plus. Mais surtout, ce qui va être très important, c'est pour l'année prochaine. L'année prochaine, changement. On passe à 18 clubs, donc dans 2 saisons. Ce qui fait que l'année prochaine, 4 descentes directes. Pas de barrage.
Et seulement 2 montées.
Et seulement 2 montées. Ça soit, va être 4 descentes directes pour en Ligue 1, en Ligue 2, en National et 2 montées du coup en Ligue 1, en Ligue 2, en National. Voilà. Ça va être très très serré. Donc si Saint-Etienne et Bordeaux descendent, ça va être très compliqué pour remonter. Ça va se jouer en Ligue 2, forcément ça va être très serré. Et en Ligue 1, vu que ça passait forcément à 18 clubs, ça va être aussi très serré en fin de classement, parce que là du coup il va y avoir beaucoup de clubs qui vont jouer la relégation.
Donc on est sauvé si on est 16e l'année prochaine.
C'est ça. C'est ça, même
oui.
pas.
15ème.
Faut être 15ème.
C'est ça.
16, 17, 18.
Ah non, parce
19.
Que c'est,
non, c'est
oui.
20.
C'est, vu que c'est, ça va
16ème. 17,
18, 19.
Mais faut être, c'est ça,
faut être 16ème.
Faut être 16ème, quoi. Donc ça va être vraiment très, très serré.
Mais.
Et il faudra pas s'égarer en Coupe d'Europe. C'est la seule chose qui fait peur aux supporters nantais. Ça serait d'aller peut-être trop loin en Europa League, peut-être en finale contre le Stade Rennais. Moi, je verrais bien une finale Stade Rennais FC Nantes en finale d'Europa League. Donc, enfin, un club français gagnerait l'Europa League.
C'est ça.
Mais moi, je vous souhaite bonne chance.
Mais après, le risque pour Nantes aussi bien pour les autres clubs européens.
Oui, oui.
Même sans faire un gros parcours, c'est les risques de blessures graves qui nuiraient le terrain pour la de France.
Voire de manque d'énergie.
On sait souvent que les matchs post-Coupe d'Europe en championnat, le week-end, c'est forcément prêt. C'est compliqué, ça, physiquement c'est dur. Donc ça va être aux Nantais, surtout l'année prochaine, de faire attention à ce qui peut se passer.
Bah, toi qui les suis, on l'a vu avec Lyon. Hein,
avec Lyon,
ils ont raté complètement leur championnat alors qu'ils faisaient une belle Coupe d'Europe.
Et c'est du coup là, finalement la Coupe d'Europe où on a vu qu'en championnat ils étaient distancés, ils se sont dit on va aller passer par la Coupe d'Europe, mais derrière c'est compliqué physiquement, ils ont raté face à West Ham, et derrière il ne reste plus beaucoup de matchs après pour essayer de revenir, ils reviendront jamais. Ils battent Nantes d'ailleurs du coup 3-2 à domicile, on n'a pas parlé, mais du coup les Nantais qui s'inclinent à l'extérieur face aux Lyonnais, des buts de Dembélé, de Paqueta et de Tété pour Lyon, Merlin et Cyprien qui gagnent. Merlin d'ailleurs, on lui souhaite un joyeux anniversaire s'il nous écoute, hein. mais voilà, c'est donc les Nantais qui eux ne jouent plus rien. Ni des Lyonnais, mais en tout cas une défaite.
Bon, c'était
mais
un
ça
bon
va être important
voir,
de. Mais comme Boré l'a dit d'ailleurs, en poste, enfin en interview d'après-match, derrière il y a un dernier match à jouer et celui-là ils veulent gagner.
Et ça, il leur a dit qu'il n'y aura pas de cadeau.
Il n'y aura pas de cadeau.
Le fait marquant détestable de cette semaine, c'est les supporters niçois débiles à souhait.
Ah, c'était chiant. Hein,
lors du match.
Déjà, je vous avais signalé que pendant la finale, ils avaient sifflé pendant la minute à Emiliano Sala. Mmh. Là, ils ont carrément réécrit une chanson complètement débile. Voilà. Ils sont navrants, ces gens. Et j'ai à noter, moi, ce qui m'a plu, c'est la très bonne réaction de Christophe Galtier qui a dit si c'est pour lancer des bouteilles ou insulter des morts, autant ne pas venir au stade. Voilà. Hein. On n'a pas besoin de vous pour gagner. Et réaction aussi d'Antoine Comboiré, tout à fait logique. Et réaction du club de Nantes qui a viré le capot de l'OGC Nice. Donc ça, c'est enfin une bonne décision.
Et du coup, l'OGC Nice, pour remédier à ça et se faire excuse, ce samedi soir contre Lille, ils ont fait un hommage à Salah avec l'image du joueur de Salah.
Mais ce qui a été le plus terrible, ça reste le communiqué qu'ils ont fait post-après
par l'avocat.
Réaction. C'est quand même scandaleux.
Complètement,
même.
Ils ont mis ça sur le dos de la nisardise, en gros, qu'on a le droit de se foutre de la gueule.
L'esprit ultra, non.
Ouais, exactement.
Il y a des limites, s'il vous plaît, monsieur.
Oui, non, on n'insulte pas les morts. On part à l'étranger, en Italie. On a bientôt le dénouement. Ça se passera lors de la 38e journée entre le Milan AC et l'Inter.
Parce que le duel à distance entre les deux Milan se font encore. Et Milan avait commencé à gagner en début de journée. Passe à Atalanta, dont un super rush de Théo Hernandez qui a fait tout le terrain entier.
Incroyable.
Pour 80 mètres,
incroyable à la Ronaldo. Ronaldo.
Et du coup, Milan qui commence à mettre de la pression contre l'Inter, mais l'Inter n'a pas cédé la pression. D'abord, Lautaro Martinez a commencé à gagner, et puis pas de match 2-1, mais ça a été dur pour l'Inter, mais.
L'AC Milan reste quand même grand favori dans le sens où effectivement ils sont derrière au goal average s'ils perdent et que l'Inter gagne. Mais ce n'est pas le goal average qui joue.
C'est la
confrontation directe aller-retour. Ils ont fait un partout au match aller notamment et ils ont gagné 2 en match retour. Ce qui fait qu'en cas de match nul, finalement parce qu'il n'y a que 2 points d'écart, même en cas de match nul, l'AC Milan sera quand même champion. Donc il y a quand même un gros avantage quand même pour les Milanais qui en plus se déplacent à Sassuolo qui ne joue plus rien et qui est un club 11e de mi-tableau, au milieu de tableau. Donc l'AC Milan quand même part grand favori pour gagner 11 ans après enfin un nouveau titre de champion d'Italie.
Ouais, ça serait pas mal. Ça serait pas
et pour
mal,
Giroud qui compléterait son palmarès énorme. Oh là là.
Toute la maison de retraite quoi.
Non mais ce serait beau pour Milan, ce grand club de l'italien qui le mérite.
Puis franchement, Giroud qui parle de Chelsea avec une Ligue des Champions et qui est là qui arrive à Milan et qui gagnerait un titre de champion, ça veut tout dire quand même. Ce mec est un génie.
En Angleterre, City marque le pas. Nul à West Ham. Voilà.
Un nul finalement qui.
Heureux.
Heureux.
Parce que heureux.
Menés 2-0. Hein.
Alors, ils étaient menés 2-0 à la mi-temps avec un doublé de Jarrod Bowen, l'ailier anglais qui a fait des misères, notamment par-dessus la défense, deux ballons par-dessus la défense. Il part en profondeur. Les Citizens, en défense, voilà, ils ne font rien. Bon. Ils arrivent à se reprendre en seconde période avec notamment les buts de notamment de Grealish qui marque un but important enfin, pour les
Et la volée de Grealish. Ouais.
Le défenseur
Greg Dawson qui contre la balle et qui fait qu'elle baille. Et aussi Koufal, le coup franc, le CSC de Koufal. Le pénalty raté en toute fin de match pour Riyad Mahrez. Malheureusement, il était à 7 sur 7 pour l'instant dans l'exercice cette saison. Malheureusement, il restera 7 sur 8 pour l'instant.
Et du coup, ce qui fait que
s'ils ne gagnent pas,
ils ont pas
4 points d'avance en attendant le match.
Liverpool a un match en retard sur la confrontation directe. Parce que Liverpool a gagné ce week-end en FA Cup contre Chelsea. Match très serré du début à la fin. Et
City au but à 5.
City au but à 5. Et du coup, Klopp, qui pour l'instant, qui son pari commence à être réussi, a gagné, c'est-à-dire toutes les coupes qu'il avait à gagner cette année. Il ne reste plus que le championnat. Qui est encore possible si City refait un dernier faux pas, que Liverpool fait un genre de faute. Et du coup, la finale de la Champions League contre la Madrid.
Liverpool joue contre Southampton demain. Si Liverpool, entre guillemets, ne gagne pas,
c'est
là,
terminé.
Ça sera quand même très compliqué avec le goal average qui est quand même très, très, très à l'avantage de City.
Dans le cas contraire,
il faudra que City gagne pour être champion. Si, parce que si City ne gagne pas, faudrait, mais du coup, Liverpool gagne dans le même temps,
oui.
Là, Liverpool serait champion. City a quand même un avantage de fait de ne pas avoir perdu quand même. Ça leur laisse une marge quand même. Mais c'est sûr que là, il y a la pression derrière. C'est sûr que même si City quand même joue à domicile face à Aston Villa quand même, City part sur un avantage, mais on sait jamais.
Mais quand on voit les jamais formes des joueurs de Citizen, ça peut aussi jouer un petit peu sur un match.
L'avantage, c'est que Aston Villa jouera cette semaine, donc sera beaucoup forcément aura un match en plus dans les pattes cette semaine. City aura une semaine pour se reprendre, c'est ce qui peut les avantager.
Attention, Aston Villa entraîné par Steven Gerrard qui fera tout pour aider son ancien club dont il est toujours fan, Liverpool. Liverpool qu'on félicite pour son deuxième trophée de la saison puisqu'ils ont gagné la Cup en battant Chelsea en finale 0-0 sur le match.
Tu écoutes Jérém toi?
Hein?
T'as bien écouté Jérém.
Oui, tout à fait, pardon.
Après, surtout avoir gagné la Carabao Cup.
Donc, c'est encore un nouveau trophée pour Liverpool qui
pourrait faire le quadruplé. Est-ce que c'est envisageable?
C'est compliqué pour le championnat. La Ligue des Champions, ça peut le faire, même si ce sera un très gros match face à Real Madrid.
Mais
c'est encore
match,
gagné 6-0
peut,
là ce week-end.
Jouer,
mais tout peut jouer, mais c'est sûr que dans l'idée, ça peut encore le faire.
Bon allez, on part en Allemagne.
En Allemagne où le Bayern champion est un petit peu champion, un peu malheureux sur ces deux dernières sorties car ils ont perdu et fait match nul contre Wolfsburg hier ou avant-hier, si je dis pas de bêtises, 2-2. Et Dortmund qui a gagné pour son dernier match à domicile où ils ont dit au revoir à Haaland et Haaland a dit au revoir à ses supporters en marquant un penalty suite de la victoire.
Parce que Haaland part à Manchester City.
City, voilà.
C'est bon, City gagne les champions
enfin,
l'année prochaine.
Un numéro 9 à City.
Il va rejoindre le club de son père.
Mais il risque pas un peu de s'ennuyer à avancer 40 passes pour faire 10 mètres là-bas?
Non, il va surtout marquer plein de buts.
Ouais, je sais pas. Si
c'est pas forcément dans la tactique de Pep Guardiola.
Ouais.
Ça sera
un
voir,
peu
hein.
Surpris, moi.
Moi, ça peut-être évolue un petit peu parce que comme Guardiola peut-être voit que sa tactique commence.
Je pense qu'il va voir, mais
il commence un petit peu.
C'est pour faire plaisir aux supporters, ça.
Non, parce qu'ils
en avaient pas besoin.
Si, ils en ont terriblement besoin. Tu n'as pas vu les deux dernières saisons quand même où quand tu joues sans numéro 9, quand même ça fait quand même très très mal parce qu'il y a plein d'occasions que un vrai numéro 9 met et surtout quand c'est Erling Haaland, il y a plein d'occasions qu'il va mettre.
Et du coup, la preuve la plus récente, c'est
contre le Real. Où ils ont loupé beaucoup d'occasions, notamment au match aller où ils n'ont pas tué le match et résultat, ils ne gagnent que 4-3. Ils ont des occasions à gagner au moins de 2, 3, 4 buts d'écart. Et je pense que là, c'est ce qui va faire la différence. Ou même sur au match retour où Jack Grealish, lui, la met pas au fond. Et sur un vrai buteur, je pense que ça fera la différence c'est important.
Bon, on verra s'il brille l'année prochaine. En tous les cas, il y a un Français qui brille en Allemagne.
Même deux Français, parce que déjà, premièrement, le premier Français qui brille le plus en Allemagne, c'est Christopher Nkunku, qui est élu meilleur joueur de Bundesliga. Et le deuxième Français qui brille aussi, c'est Moussa Diaby, qui, avec Nkunku cette année, ce sont les deux seuls joueurs d'Allemagne à faire un double-double, c'est-à-dire à faire plus de 10 buts et plus de 10 passes décisives dans la saison.
Ah, ça existe en football, ça, les double-doubles?
Ouais, ça peut, pourquoi pas.
D'accord.
Du coup, à propos des deux clubs, donc tu dis Moussa Diaby, lui,
Leverkusen
qui bat Fribourg 2-1. Et le RB Leipzig qui fait match nul à Arminia Bielefeld 1-1, ce qui n'empêchera pas Bielefeld descendre et d'accompagner Greuther Fürth. Et ils seront remplacés par Schalke 04 de retour
et le
avec le Werder de Brême.
Oh, deux historiques qui remontent, ça c'est très bien pour le...
Hambourg peut même revenir, ils joueront sans doute, ils joueront les barrages face au Hertha Berlin. Donc ça
incroyable.
Les trois gros clubs mythiques peuvent revenir.
Qui sont les six qualifiés en Ligue, en Coupe d'Europe du coup alors.
Le Bayern, le Dortmund et Leverkusen sont Ligue des Champions, Leipzig joue les barages. Union Berlin qui du coup joue la Ligue Europa.
Qui pourra se rendre à Nantes, exactement, l'Union ça. Berlin. Ça ferait plaisir à Jean-Marc. Ça.
Exactement, exactement.
Et il aura la conférence.
Déjà que je suis déçu, moi, parce que je voulais que le Sankt-Pauli monte avec Darmstadt, mais bon. Donc si j'ai l'Union, ça m'ira très bien.
C'est trop le bordel à Sankt-Pauli.
C'est chouette.
Le quartier rouge de Hambourg, Sankt-Pauli. Bon, Espagne pour terminer.
Bah, Espagne, le Real vainqueur de la Liga en roue libre, même si genre des matchs, ils ont fait match nul du coup, un partout, sinon le 6-0, 6-0 c'était juste avant. Et du coup, le Barça qui restera deuxième, qu'ils ont fait une Barça de Xavi qui a fait une très belle remontée au classement.
Ouais, grâce à un certain Pierrick Aubameyang. Hein.
C'est ça, notamment. Et Séville qui finit troisième grâce à un but au buzzer. Tout dernier, je sais plus, j'ai pas suivi ce qui a marqué buzzer.
C'est.
Mais du coup, oui, Séville qualifié en Ligue Champion.
C'est Youssef Nesseri.
Nesseri, voilà. Et du coup, voilà, Séville qualifié. Et du coup, ça suit d'ailleurs avec l'Atlético Madrid et le Betis.
Atlético Betis pour une place, pour aller chercher la quatrième place en Ligue des Champions.
Non, ça c'est ça se voit. Il reste un match et il y a 3 points d'écart entre le Betis et Séville qui sont 4e et 5e. Séville qui est 4e, Betis est 5e. Sociedad est 2 points derrière le Betis qui peut jouer la Ligue Europa peut-être.
Voilà,
c'est ça. Voilà, ça va être
ok.
Et oui. En Espagne, c'est Almeria et Eibar qui vont monter.
C'est ça.
Et Alaves et Levante qui eux sont sûrs de descendre. Ça joue entre Mallorca, Cadiz et Grenade pour la part de la place du 18e.
Qui jouera contre Valladolid.
Bon bah, si on a été complet, on va laisser la place à nos potes de Passage en Force pour parler de la NBA. Oui, Charles.
Comme tu le disais en début d'émission, c'est le week-end du 28, les finales de Coupe d'Europe de rugby, et aussi un gros big up à nos amis belges, le club Bruges qui titré en Belgique.
Et l'Union Saint-Gilloise.
Deuxième.
Je voulais que ça soit l'Union Saint-Gilloise.
C'est dommage pour eux. Ils ont fait un très beau parcours cette année, mais en tout cas, bravo
ça
à eux.
Ça pas joué à grand-chose.
Ils passeront les barrages pour la Ligue des Champions, mais.
Non, mais t'imagines pas, ça faisait 110 ans qu'ils n'avaient pas été champions de Belgique. Ben, ça sera pas pour cette année.
Ouais, dommage pour eux. En tout cas, ils auraient mérité.
Allez, il est 20h. On laisse la place à nos potes de Passage en Force. On vous dit à lundi prochain. Ciao à tous.
Ciao.